Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission Lire et méditer. Nicolas, ce micro. Je vous retrouve avec plaisir, avec joie même, pour ensemble bien découvrir un ouvrage qui alimente et puisse en tout cas nous amener à réfléchir, à faire grandir aussi notre foi. Et j'ai donc choisi aujourd'hui de revenir sur une encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II sur l'évangile de la vie. Certainement beaucoup d'entre vous l'ont lu ou en tout cas ont médité à travers des catéchèses sur cette encyclique révolutionnaire que le pape donc est venu nous donner. Je voudrais pour cela, pape Jean-Paul II, pour cela, je voudrais vous donner la présentation du cardinal Pierret et puis bien sûr aussi l'introduction à l'évangile de la vie avec quelques passages, si j'espère j'en ai le temps. Alors, pas toute la présentation parce qu'elle est très longue mais très importante. Voici donc la présentation du livre sur l'encyclique l'évangile de la vie. L'évangile de la vie est un grand don de Dieu et en même temps un devoir qui engage l'homme. L'encyclique se présente comme un hymne à la vie. Les appréciations sévères contre les menaces qui mettent la vie humaine en danger ne prennent leur sens que dans la lumière de cette grande célébration biblique et lyrique de la grandeur de la vie humaine, de sa valeur toute intérieure à chaque être humain, de son prix incomparable à toute autre réalité. Le don de la vie suscite étonnement, émerveillement et gratitude. En même temps, le don de la vie exige d'être respecté, accueilli, développé. La vie humaine constitue la valeur la plus précieuse et elle est en même temps la réalité que l'homme peut mettre plus spécialement en péril. L'encyclique reprend la trame biblique de la lutte de l'homme contre l'homme, de Caïn contre Abel. Seul Dieu est le don qu'il fait à l'homme pécheur de la raison et de la sagesse. Seule l'éducation patiente de l'homme par Dieu, telle que la décrit la Bible, nous arrache à la malédiction de la violence homicide. On comprend dès lors que pour les livres saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, le dépassement de la violence, du meurtre, de la vengeance, soit au cœur du drame d'Israël, de Jésus, de la communauté chrétienne naissante. L'Évangile lui-même nous vient de Jésus, victime, pardonnant à ses bourreaux. Depuis ses origines, la tradition vivante de l'Église veut témoigner au nom de son Seigneur pour le respect et l'épanouissement de la vie de tout être humain. C'est la Didaché, un écrit chrétien anonyme du IIe siècle, qui rappelle ainsi le commandement « Tu ne tueras pas », légué à travers Jésus par le livre de l'Exode. Il y a deux voies, l'une de la vie et l'autre de la mort. Mais la différence est grande entre les deux voies. Second commandement de la doctrine, « Tu ne tueras pas, tu ne tueras pas l'enfant par avortement et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Voici maintenant la voie de la mort. Impitoyable pour le pauvre, indifférent à l'égard de l'affligé et ignorant leur créateur, ils font avorter l'œuvre de Dieu, repoussant l'indigent et accablant l'opprimé. Défenseurs des riches et juges iniques des pauvres, ce sont des pécheurs invétérés. Puissiez-vous, mes enfants, être à l'égard de tout cela ?» C'est un extrait de la Didaché, de cet écrit ancien, du IIe siècle, donc écrit chrétien. Alors, bien sûr, il ne faut pas manquer toutefois cette très belle introduction du cardinal Pierret, mais je vous propose maintenant de tout de suite prendre connaissance de cette belle lettre encyclique ou, même si vous l'avez déjà lue, eh bien de la reprendre en main. Vous pouvez la trouver soit, bien sûr, elle est éditée en livre dans toutes vos librairies chrétiennes, mais également, vous pourrez trouver cette lettre encyclique Evangelium Vitae, donc l'évangile de la vie, du souverain pontife Jean-Paul II. Vous pourrez la trouver sur le site vatican.vas, dans les lettres encycliques. Voilà, vous pouvez faire la recherche et vous trouverez le texte intégral. Cette lettre est adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs et à toutes les personnes de bonne volonté sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine. Je pense que vous aurez compris pourquoi je vous propose cet ouvrage en ces temps très, très difficiles que nous vivons, où se décident beaucoup de lois qui vont vraiment contre la dignité de l'homme. Eh bien, puisons la force dans, dans l'évangile de la vie, dans l'évangile tout court. Hein. Puisque dans cette introduction, nous est dit que justement, l'évangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus. Reçu chaque jour par l'Église avec amour, il doit être annoncé avec courage et fidélité comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute époque et de toute culture. À l'aube du salut, il y a la naissance d'un enfant proclamé comme une joyeuse nouvelle. Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la cité de David. Assurément, la naissance du sauveur a libéré cette grande joie. Mais à Noël, le sens plénier de toute naissance humaine se trouve également révélé et la joie messianique apparaît comme le fondement et l'accomplissement de la joie qui accompagne la naissance de tout enfant. Exprimant ce qui est au cœur de sa mission rédemptrice, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » En vérité, il veut parler de la vie nouvelle et éternelle, qui est la communion avec le Père, à laquelle tout homme est appelé par grâce dans le Fils, par l'action de l'Esprit sanctificateur. C'est précisément dans cette vie que les aspects et les moments de la vie de l'homme acquièrent tous leur pleine signification. La valeur incomparable de la personne humaine. L'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle. En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale, un moment initial et une partie intégrante du développement entier et unitaire de l'existence humaine. Ce développement de la vie, de manière inattendue et imméritée, est éclairé par la promesse de la vie divine et renouvelé par le don de cette vie divine. Et il atteindra son plein accomplissement dans l'éternité. En même temps, cette vocation surnaturelle souligne le caractère relatif de la vie terrestre de l'homme et de la femme. En vérité, celle-ci est une réalité qui n'est pas dernière, mais avant-dernière. C'est de toute façon une réalité sacrée qui nous est confiée pour que nous la gardions de manière responsable et que nous la portions à sa perfection dans l'amour et dans le don de nous-mêmes à Dieu et à nos frères. L'Église sait que cet évangile de la vie qui lui a été remis par son Seigneur trouve un écho profond et convaincant dans le cœur de chaque personne, croyante et même non-croyante, parce que tout en dépassant infiniment ses attentes, il y correspond de manière surprenante. Malgré les difficultés et les incertitudes, tout homme sincèrement ouvert à la vérité, au bien, peut, avec la lumière de la raison et sans oublier le travail secret de la grâce, arriver à reconnaître dans la loi naturelle, inscrite dans les cœurs, la valeur sacrée de la vie humaine depuis son commencement jusqu'à son terme. Et il peut affirmer le droit de tout être humain à voir intégralement respecter ce bien qui est pour lui primordial. La convivialité humaine et la communauté politique elle-même se fondent sur la reconnaissance de ce droit. La défense et la mise en valeur de ce droit doivent être, de manière particulière, l'œuvre de ceux qui croient au Christ, conscients de la merveilleuse vérité rappelée par le Concile Vatican II. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est dans la constitution pastorale sur l'Église et dans le monde de ce temps, c'est-à-dire Gaudium et Spes. Dans cet événement de salut, en effet, l'humanité reçoit non seulement la révélation de l'amour infini de Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, mais aussi celle de la valeur incomparable de toute personne humaine. L'évangile de l'amour de Dieu pour l'homme, l'évangile de la dignité de la personne et l'évangile de la vie sont un évangile unique et indivisible. Et là, dans cette encyclique, donc toujours dans l'introduction, eh bien, les nouvelles menaces contre la vie humaine, qui à ce moment-là, c'était les nouvelles menaces. Bon, maintenant, elles sont de plus en plus ancrées même dans la mentalité de notre société. Et je voudrais donc, avant de voir d'autres extraits de chapitres, vous lire... En tout cas, quelques lignes, justement, toujours dans l'introduction, sur ces nouvelles menaces. En vertu du mystère du Verbe de Dieu qui s'est fait chair, tout homme est confié à la sollicitude maternelle de l'Église. Aussi, toute menace contre la dignité de l'homme et contre sa vie ne peut-elle que toucher le cœur même de l'Église. Elle ne peut que l'atteindre au centre de sa foi, en l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu, et dans sa mission d'annoncer l'Évangile de la vie dans le monde entier et à toute créature. Aujourd'hui, cette annonce devient particulièrement urgente en raison de la multiplication et de l'aggravation impressionnante des menaces contre la vie des personnes et des peuples, surtout quand cette vie est faible et sans défense. Aux fléaux anciens et douloureux de la misère et malheureusement toujours actuels, de la faim, donc des maladies endémiques, de la violence et des guerres, il s'en ajoute d'autres dont les modalités sont nouvelles et les dimensions inquiétantes. Dans une page d'une dramatique actualité, le Concile Vatican II a déploré avec force de multiples crimes et attentats contre la vie humaine. 30 ans plus tard, faisant mienne les paroles de l'Assemblée conciliaire, je déplore ces mots encore une fois et avec la même force au nom de l'Évangile tout entier, au nom de l'Église pardon, tout entière, certain d'être l'interprète du sentiment authentique de toute conscience droite. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le suicide délibéré, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les tentatives de contraintes psychiques, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie infrahumaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur liberté, pour leur personnalité libre et responsable, toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes. Tandis qu'elles corrompent la civilisation, elles déshonorent ceux qui s'y livrent plus encore que ceux qui les subissent, et elles insultent gravement à l'honneur du Créateur. C'est toujours extrait de Gaudium et Spes. Malheureusement, ce panorama inquiétant, loin de se rétrécir, va plutôt en s'élargissant. Avec les nouvelles perspectives ouvertes par le progrès scientifique et technique, on voit naître de nouvelles formes d'attentats à la dignité de l'être humain. En même temps, se dessine et se met en place une nouvelle situation culturelle qui donne au crime contre la vie un aspect inédit et, si cela se peut, encore plus injuste, ce qui suscite d'autres graves préoccupations. De larges couches de l'opinion publique justifient certains crimes contre la vie au nom des droits de la liberté individuelle et, à partir de ce présupposé, elles prétendent avoir non seulement l'impunité, mais même l'autorisation de la part de l'État afin de les pratiquer dans une liberté absolue et plus encore avec l'intervention gratuite des services de santé. Tout cela provoque un profond changement dans la façon de considérer la vie et les relations entre les hommes. Le fait que les législations de nombreux pays s'éloignant le cas échéant des principes mêmes qui fondent leur constitution aient accepté de ne pas punir ou plus encore de reconnaître la légitimité totale de ces pratiques contre la vie est tout à la fois un symptôme préoccupant et une cause non négligeable d'un grave effondrement moral. Des choix considérés jadis par tous comme criminels et refusés par le sens moral commun deviennent peu à peu socialement respectables. La médecine elle-même, qui a pour vocation de défendre et de soigner la vie humaine, se prête toujours plus largement dans certains secteurs à la réalisation de ses actes contre la personne. Ce faisant, elle défigure son visage, se met en contradiction avec elle-même et blesse la dignité de ceux qui l'exercent. Dans un tel contexte culturel et légal, même les graves problèmes démographiques, sociaux ou familiaux qui pèsent sur de nombreux peuples du monde et qui exigent une attention responsable et active des communautés nationales et internationales risquent d'être résolus de manière fausse et illusoire, en contradiction avec la vérité et avec le bien des personnes et des nations. Le résultat auquel on parvient est dramatique. S'il est particulièrement grave et inquiétant de voir le phénomène de l'élimination de tant de vies humaines naissantes ou sur le chemin de leur déclin, il n'en est pas moins grave et inquiétant que la conscience elle-même, comme obscurcie par d'aussi profonds conditionnements, ait toujours plus de difficultés à percevoir la distinction entre le bien et le mal sur les points qui concernent la valeur fondamentale de la vie humaine. Et voilà, mes auditeurs, donc, pour ces quelques extraits de l'introduction. Ensuite, l'encyclique comporte 4 chapitres avec une conclusion. Ces 4 chapitres, dont le premier est sur, en référence à la Genèse, la voix du sang de ton frère crie vers moi du sol, donc les menaces actuelles contre la vie humaine. Caïn se jeta contre son frère Abel et le tua, à la racine donc de la violence contre la vie. Le passage toujours de la Genèse, la suite, qu'as-tu fait de ton frère, l'éclipse donc de la valeur de la vie. Suis-je le gardien de mon frère, une conception pervertie de la liberté. Je devrais me cacher loin de ta face, l'éclipse du sens de Dieu et du sens de l'homme. Vous vous êtes approché d'un sang purificateur, donc les signes d'espérance et appel à l'engagement. Ensuite, le chapitre numéro 2, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie », donc le message chrétien en fait sur la vie. La vie s'est manifestée, nous l'avons vu, donc le regard tourné vers le Christ qui est le Verbe de vie. Ma force et mon champ, c'est le Seigneur, je lui dois le salut. La vie est toujours un bien. Le nom de Jésus a rendu la force à cet homme, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Dans la précarité donc de l'existence humaine, Jésus porte à son accomplissement le sens de la vie. Appelé à reproduire l'image de son Fils, la gloire de Dieu resplendit sur le visage de l'homme. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, le don de la vie éternelle. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère, vénération et amour pour la vie de tous. Soyez féconds et multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la, responsabilité de l'homme à l'égard de la vie. C'est toi qui as créé mes reins, la dignité de l'enfant non encore né. Je crois même lorsque je dis « je suis trop malheureux », psaume 116, « la vie dans la vieillesse et dans la souffrance ». Quiconque la garde vivra, du livre de Baruch, de la loi du Sinaï au don de l'Esprit. Et pour conclure le chapitre 2, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé sur l'arbre de la croix, s'accomplit l'évangile de la vie. Chapitre 3, tu ne tueras pas, la loi sainte de Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, évangile et commandements. À chacun, je me rendrai compte de la vie de son frère. La vie humaine est sacrée et inviolable. J'étais encore inachevé, tes yeux me voyaient. Un merveilleux psaume 139. Le crime abominable de l'avortement. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, le drame de l'euthanasie. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, la loi civile et la loi morale. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu défendras, ça veut dire tu défendras la vie. Chapitre 4, c'est à moi que vous l'avez fait pour une nouvelle culture de la vie humaine, cette civilisation de l'amour et non pas cette civilisation de mort, cette culture de la mort, comme disait le pape, dans laquelle nous sommes empêtrés. Pour une nouvelle culture de la vie humaine, vous êtes le peuple qui appartient à Dieu, chargé d'annoncer ses merveilles, le peuple de la vie et pour la vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Annoncez l'évangile de la vie. Je te rends grâce pour tant de prodiges. célébrer l'évangile de la vie. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi s'il n'a pas les œuvres » donc c'est de l'épître de saint Jacques, « servir donc l'évangile de la vie ». Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, récompense que le fruit des entrailles, psaume 127, la famille, sanctuaire de la vie. Conduisez-vous en enfant de lumière, réalisez un tournant culturel. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète, l'évangile de la vie est pour la cité des hommes. Et puis, il y a une magnifique conclusion avec les passages de l'Apocalypse, un signe grandiose apparu au ciel, une femme enveloppée de soleil, la maternité de Marie et de l'Église. En arrêt devant la femme, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né, la vie menacée par les forces du mal. De mort, il n'y en aura plus, la splendeur de la résurrection. Voilà, chaque paragraphe est toujours d'abord avec une parole extraite de la Bible, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, auquel on répand face à la réalité d'aujourd'hui pour justement faire ressortir cet évangile de la vie. Je voudrais, pour conclure, juste lire un extrait correspondant donc à « Je crois, alors même que je dis, je suis trop malheureux », faisant référence au psaume 116, « La vie dans la vieillesse et dans la souffrance ». En ce qui concerne les derniers instants de l'existence, il serait anachronique d'attendre de la révélation biblique une mention explicite de la problématique actuelle du respect des personnes âgées ou malades, ni une condamnation explicite des tentatives visant à anticiper par la violence la fin de la vie. Nous sommes là, en effet, dans un contexte culturel et religieux qui, loin d'être exposé à de semblables tentations, reconnaît dans la personne âgée, avec sa sagesse et son expérience, une richesse irremplaçable pour la famille et pour la société. La vieillesse jouit de prestige, elle est entourée de vénération. Et le juste ne demande pas d'être privé de la vieillesse ni de son fardeau. Au contraire, il prie ainsi. « Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu. Et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront, tes exploits. » Extrait du psaume 71. Mais dans la vieillesse, comment faire face au déclin inévitable de la vie ? Comment se comporter devant la mort ? Le croyant sait que sa vie est dans la main de Dieu. « Seigneur, de toi dépend mon sort », dit le psaume 16. Et il accepte aussi de lui la mort. C'est la loi que le Seigneur a portée sur toute chair. Pourquoi se révolter contre le bon plaisir du Très-Haut, si racide ? Pas plus que de la vie, l'homme n'est le maître de la mort. Dans sa vie comme dans sa mort, il doit s'en remettre totalement au bon plaisir du Très-Haut, à son dessein d'amour. Quand il est atteint par la maladie également, l'homme est appelé à s'en remettre de la même manière au Seigneur et à renouveler sa confiance fondamentale en lui qui guérit de toute maladie. Lorsque toute perspective de santé semble se fermer devant l'homme au point de l'amener à s'écrier « Mes jours sont comme l'ombre qui décline et moi comme l'herbe je sèche ». Même alors, le croyant est animé par une foi inébranlable en la puissance vivifiante de Dieu. La maladie ne l'incite pas au désespoir ni à la recherche de la mort, mais à l'invocation pleine d'espérance. « Je crois alors même que je dis « je suis trop malheureux ». Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. » Et ce paragraphe se conclut avec un passage aussi de l'acte de faisant référence aux actes des apôtres. Toutefois, personne ne peut choisir arbitrairement de vivre ou de mourir. Ce choix, en effet, seul le Créateur en est le maître absolu, lui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà, mes auditeurs, pour le coup de cœur de cette semaine, c'est revenir finalement sur ce que nous dit l'Église dans sa grande sagesse, et notamment face à ces courants, ces contre-courants qui nous assaillent, eh bien, se replonger dans l'évangile de la vie, c'est vraiment se remettre dans le cœur de Dieu, ce cœur rempli d'amour. Je vous invite donc à reprendre cette encyclique du pape Jean-Paul II en main, l'évangile de la vie, que vous pouvez trouver soit aux éditions Bayard, au Centurion, c'est-à-dire en format de livre, ou bien sur le net, sur la toile, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site du Vatican, vatican.va, et en cherchant bien sûr l'encyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie du pape Jean-Paul II. Bonne et sainte semaine à vous tous. On se retrouve, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine pour un autre ouvrage.